Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Nous avons la joie de recevoir Benoît Vidkine, journaliste, tout d'abord, correspondant du Monde à Moscou et prix Albert Londres 2019, et qui, en plus, vient de publier un polar qui est excellentissime, qui s'appelle Donbass, qui se passe sur la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie. Et donc voilà, de journaliste à écrivain de polar. Bonsoir, Benoît Vidkine.
Bonsoir.
La première question, c'est, on va parler tout d'abord de votre carrière de journaliste. Comment vous êtes-vous retrouvé spécialiste des pays de l'ancienne URSS ?
Ça paraît simple comme première question, mais c'est plus difficile pour moi qu'il n'y paraît. Je suis assez incapable de l'expliquer en réalité. Journaliste, c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps. Je suis au Monde depuis 14 ans maintenant. J'ai commencé tout jeune parce que je suis encore assez jeune. Comme stagiaire et à faire quasiment des petits boulots. Et ensuite, j'y suis resté. Et ensuite, j'ai eu la chance de me spécialiser sur cette région qui m'intéressait depuis même avant de commencer le journalisme. J'ai appris le russe depuis le lycée. Donc c'est vraiment une envie assez personnelle, assez lointaine. Et ensuite, m'intéresser plus à ces pays-là avec le regard du journaliste, ça s'est fait progressivement en comprenant des enjeux qui sont parfois communs à toute cette grande région, puisque aujourd'hui je suis installé à Moscou et la région que je couvre, c'est à peu près toute l'ex-URSS, donc il y a évidemment énormément de choses en commun, et ces choses, notamment le poids de l'histoire, peut-être qu'on en parlera parce que c'est assez présent dans le livre, le poids de l'histoire et de l'histoire soviétique, pour commencer, qui est ce qui unit une grande partie des pays de la région, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et ensuite également ce qui différencie ces différents pays. Parmi les choses qui les unit et que j'évoque aussi dans le livre, il y a le poids de la corruption, des élites peu recommandables, voilà.
Et justement, comme vous avez l'œil du journaliste aguerri, l'expérience, pourquoi ne pas avoir choisi l'essai, par exemple, pour rendre compte de votre expérience sur place, et pourquoi vous êtes tourné vers le polar ?
Alors, pourquoi pas la non-fiction ? Je peux commencer par vous dire ça. Il y a deux choses. Il y a d'abord quelque chose d'assez personnel, qui est... j'ai couvert ce conflit comme journaliste pendant 6 ans. En y allant très très régulièrement, plus à l'époque où on reviendra aussi sans doute sur ce qu'est ce conflit, comment il a démarré, etc. Mais il a eu, pendant 2 années, en 2014-2015, au moment où il démarre et au moment où il est militairement chaud, là j'y étais beaucoup beaucoup, ensuite petit à petit j'y étais un peu moins, mais je continue à y aller régulièrement. Et c'est quelque chose qui m'a assez profondément marqué. Et professionnellement, c'est extrêmement riche, je le dis sans aucun cynisme. Et personnellement, c'est évidemment riche également, mais aussi évidemment un peu dur. Et donc, c'était un besoin assez personnel de m'exprimer d'une autre manière, de pouvoir faire passer des choses un peu plus sensibles. On peut, dans des articles, écrire des choses sensibles. On peut faire passer des messages très simples que ce soit des hommages à des gens qu'on rencontre, que ce soit des choses très simples comme expliquer l'absurdité de la guerre. Mais il n'y a aucun médium, la littérature le permet infiniment plus. Donc je voulais continuer à parler de ce conflit, je voulais ne pas quitter complètement le regard du journaliste, puisque l'un des buts de ce livre, c'est quand même d'expliquer de façon carrée et solide, on va dire, ce qu'est cette guerre. Mais la littérature offrait une liberté également pour plonger plus loin dans l'histoire à nouveau de la région, mais dans l'histoire des personnages. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on va voir sur le terrain des gens qui sont dans cette région de l'est de l'Ukraine, on peut leur parler plein de choses, on peut même écrire sur leur histoire personnelle. Mais on est là avant tout pour s'intéresser à ceux qu'ils vivent dans cette guerre, leur histoire récente en quelque sorte. Sauf qu'en réalité, moi ça me passionnait de me rendre compte que cette guerre n'était souvent qu'un traumatisme supplémentaire, qu'un choc supplémentaire pour des gens qui en ont vécu beaucoup. Et ça, la fiction permet de le montrer beaucoup mieux, de s'intéresser à ce que tous ces chocs produisent sur la psychologie d'un homme ou d'une femme. Et la fiction permet aussi de bousculer ces personnages, en plus artificiellement, on va dire, parce qu'on peut faire état de l'individu, qui il est, parce que voilà ce qu'il a vécu. Et si en plus on lui rajoute Oui, j'aime bien l'idée de bousculer. Si en plus on peut le bousculer, ben on va pouvoir plonger encore plus loin dans sa psychologie, dans la façon dont il vit.
Une toute petite dernière question sur la partie concrète du travail. Vous étiez sur place au moment où la guerre a commencé. Quels sont les souvenirs que vous avez de ces débuts ?
Beaucoup. Ces débuts, justement, ça a été important pour moi parce que, alors journalistiquement d'abord, parce que on n'y comprenait rien. Tout le monde ment, ça, on s'y est habitué, mais là-dessus, il fallait quand même démêler le vrai du faux. Et ensuite, les débuts, alors en un mot rapide, si je me permets de faire un tout petit rappel, il y a dans ce grand pays qu'est l'Ukraine, on pourrait remonter un peu plus loin, mais un événement qui est important, qui est la révolution de Maïdan, qui se termine à l'hiver 2014, et qui voit la victoire de gens pro-européens, assez hostiles à la Russie, et qui promettent de réformer le pays et d'en faire un État fonctionnel, un État de droit, etc. C'est évidemment chaotique. Là-dessus, la Russie profite de cette situation pour annexer la Crimée, dans le sud de l'Ukraine, et démarre ce conflit dans l'est de l'Ukraine, dans cette région qui s'appelle le Donbass, une région minière industrielle. Pareil, on reviendra peut-être sur l'identité de cette région, parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment très différent de la Crimée. Autant la Crimée, on peut le dire assez nettement, était beaucoup de gens se sentent russes. Dans le Donbass, on était un peu perdus en réalité. Et donc, des gens perdus, des gens qui se méfient de ce qui vient de se passer à Kiev, la Russie qui, dès le début, fait plus que souffler sur les braises, attise un peu ce conflit, ça part en émeute, en quelque sorte. Et avant d'être un conflit armé, il y a eu toute une phase de plusieurs semaines où c'était des rassemblements violents et des combats de rue. En réalité, moi, ça m'a beaucoup plus... pas beaucoup plus, mais c'est presque plus terrifiant à voir que le vrai boom-boom de la guerre... de voir une foule qui décide tout d'un coup de pointer un individu qui est tout d'un coup, pour une raison imaginaire ou réelle, l'ennemi et qui va, tout le monde va le tabasser, c'est assez perturbant. Donc voilà, c'est ce souvenir-là. Ensuite, quand je cite un souvenir précis, peut-être un moment qui est intéressant et qui est assez emblématique. Et qui est emblématique d'un thème que finalement j'aborde très légèrement dans le livre parce qu'il fallait faire des choix et puis que mon but n'était pas de faire un essai, donc pas d'être exhaustif, mais d'une problématique qui est celle de ces manipulations russes et du rôle qu'a joué la Russie, pas seulement militairement plus tard, mais d'abord pour entretenir la méfiance puis la haine. C'est la dernière manifestation pro-ukrainienne dans la ville de Donetsk, qui est ensuite devenue la capitale de ces séparatistes pro-russes. Et moi, je vois vraiment de mes yeux une manifestation pacifique qui se fait attaquer par ces gens séparatistes pro-russes. Et c'est sale, c'est moche, c'est sanglant. Et deux jours après, les agences russes, pour relater cette manifestation, disent vraiment très clairement l'inverse, à savoir une manifestation de pro-russes tout à fait pacifique, s'est fait attaquer par les pro-ukrainiens et les fascistes ukrainiens, et il y a eu des blessés, etc. C'est une chose, on sait que ça existe, que ça fonctionne comme ça. Ce qui m'a, en revanche, bouleversé et terrifié, c'est de voir, peut-être trois semaines après, des gens que j'avais vus dans ces moments-là, qui avaient vu avec les mêmes yeux que moi, non, mais qui avaient vu aussi de leurs propres yeux ce qui s'était passé, me ressortir ce narratif russe. C'est-à-dire qu'ils croyaient plus à ce qu'ils avaient lu ensuite, et puis surtout vu à la télé, évidemment, que ce qu'ils avaient vu eux-mêmes. Et ça fait partie des choses, alors voilà, je le répète, qui ne sont pas en premier rideau dans le livre, mais qui m'ont sacrément instruite et qui m'ont marqué sur les débuts du conflit, avant qu'il devienne vraiment une véritable guerre.
Justement, le roman se passe tardivement. On est en 2018.
Ouais.
Ça fait déjà un moment qu'il s'agit plus d'une guerre gelée. Et à part des échanges de feu, il ne se passe plus grand-chose. La ligne de front ne bouge pas. Et nous sommes à Avdiivka, une commune sur la ligne de front. Il y a évidemment des morts depuis des années, mais là, d'un coup, il y a une mort qui n'est pas habituelle. C'est un enfant. Et le personnage qui va mener l'enquête, c'est Henry Kavadze, flic un peu blasé, vétéran de la guerre à l'Afghanistan. Il avait essayé de trouver avec sa femme le calme loin de la ville. La guerre les a rattrapés, donc ils sont retrouvés sur la ligne de front, loin du calme. C'est un des peu policiers qui n'ont pas choisi, qui ne sont pas positionnés auprès des pro-russes lorsque les hostilités avaient commencé. C'est un personnage extrêmement attachant. Et c'est aussi peut-être un portrait que vous aviez dressé auparavant dans vos articles quand vous parliez des vétérans de la guerre d'Ukraine, mais qui avaient aussi vécu la guerre d'Afghanistan. Vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont fait les deux guerres, du coup, parce qu'ils sont très rapprochés dans le temps.
Oui et non. Les vétérans d'Afghanistan, c'est un peu une institution dans tout l'espace post-soviétique. Ils sont vus de façon et bonne et moins bonne. C'est-à-dire qu'à l'époque, on peut faire un parallèle avec le Vietnam. C'est des gens qui, quand ils sont rentrés de cette guerre, qui ont été très mal accueillis. Et ce souvenir-là pèse fortement sur mon personnage, a pesé fortement sur beaucoup de gens qui ont fait cette guerre soviétique d'Afghanistan dans les années 80. Et pour autant, c'est une institution dans le sens où ils sont souvent assez organisés. Et comment dire, après coup, ils ont regagné un peu ce respect qu'au retour de la guerre, ils n'avaient pas. Donc ça, c'est un milieu que je connaissais un peu. La police, non, j'ai fréquenté vraiment beaucoup de milieux en Ukraine, dans l'est de l'Ukraine. Un tout petit peu les flics, mais pas assez. Et donc, c'est la partie sur laquelle j'ai dû un peu plus enquêter et aller voir spécialement des policiers pour qu'ils me racontent un peu leur travail. Et ça fait qu'au final, ce personnage qui est ce héros, le héros de l'intrigue, c'est le personnage que j'ai le plus inventé, qui correspond à personne. Chez les autres personnages, ce sont quand même très souvent des personnages réels, c'est un bien grand mot, mais ça peut être des fusions de différentes personnes que j'ai vues, ça peut être au contraire des gens que je dédouble, je peux choisir un personnage réel et un peu le transformer. Mais lui, il est totalement inventé, Il a un petit avantage en termes de procédé narratif. Et dans ce que je voulais faire, qui est un travail qui est avant tout un travail de romancier, j'espère, mais un peu un travail de journaliste, il a un avantage, c'est qu'un flic, c'est un peu comme un journaliste.
Il peut aller partout.
Il peut poser des questions. Alors, il peut aller plus partout qu'un journaliste, on est d'accord. Mais il peut poser des questions et il peut, à travers ses yeux, on peut voir beaucoup. Donc ça m'intéressait particulièrement. Et sur le début de votre question, ça m'intéressait aussi de choisir cette période de 2018, mais ça pourrait être aujourd'hui, parce que la situation n'a pas vraiment changé. Et pour le dire très simplement, le conflit n'est pas gelé en ce moment, il est paralysé plutôt, on pourrait dire. C'est-à-dire que cette ligne de front qui a, en 2014-2015, beaucoup varié, avec des vraies offensives et des images assez folle d'offensives de chars, de vraies batailles de chars. Depuis, on a creusé des tranchées, on s'est un peu enterré de part et d'autre, et donc cette ligne ne bouge plus du tout. Pour autant, ça paraît absurde puisque ça n'a aucune valeur stratégique, mais on continue à se tirer dessus au canon, à la mitrailleuse, au fusil. Mais en revanche, il y a une espèce de sensation un peu de il ne se passe plus rien, et particulièrement avec ce choix que j'ai fait d'aller dans cette petite ville qui a l'air isolé, loin de tout. On peut même y créer un climat un peu de huis clos. Et ça, ce huis clos et ce temps suspendu, en quelque sorte, durant lequel la guerre est déjà une routine, ça m'intéressait aussi d'abord parce que je l'ai vu et que c'était une période qui me marquait, c'est-à-dire cette impression de voilà, les gens, on s'est intéressé à eux, et puis maintenant, on les laisse avec cette guerre qui est devenue routinière. Et ça m'intéressait justement pour ce que vous avez dit, une guerre, la mort est quelque chose de banal. Alors, de banal, j'exagère un peu. Ça provoque évidemment à chaque fois de l'émotion chez les gens qui vivent ces morts-là. Mais à l'échelle de ce conflit, c'est très banal. À l'échelle même d'une ville, c'est banal. Et là, ça me plaisait, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais d'ajouter une mort qui, elle, ne l'est pas et qui va permettre de bouleverser un peu les équilibres de cette ville, certes en guerre, mais un peu endormie, et de bousculer des personnages.
Mais finalement, c'est. J'allais vous demander pourquoi avoir choisi un enfant, mais c'est extrêmement symbolique. Enfin, je pense, vous me direz si je me trompe, puisque l'enfance est déjà cette demain. Ce sont des êtres qui n'ont pas l'histoire de leurs parents, ni de leurs grands-parents, de leur grand-mère principalement, parce que. Il y a des passages dans le livre qui décrivent les femmes sur place et les femmes âgées, les veuves qui sont juste superbes. Et donc, ce sont ces enfants qui devraient grandir avec l'espoir. Et là, pour le coup, le petit Sacha, lui, il n'y a pas d'espoir. Et il y a un superbe fragment sur l'enterrement de cet enfant, où pour une fois toute la ville communie, pour une fois toute la vie est réveillée, comme vous le dites. Du coup, justement, pourquoi cette ville, pourquoi cette région précisément? Parce que tout à l'heure vous disiez que il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées avant. C'est une région qui a connu une opulence assez importante dans le passé. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Elle est entre les mains d'un mafieux, comme dans beaucoup d'endroits qui ont subi la transition des années 90. Vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça?
Ça fait beaucoup. Effectivement, vous avez raison, les deux questions sont liées, celle de l'avenir stoppé et de cette région qui a vu son avenir stoppé il y a déjà une bonne trentaine d'années. Effectivement, c'est une région qui a été opulente et qui a même été plus que ça. Ses habitants étaient en quelque sorte l'aristocratie de l'Union soviétique, puisqu'ils étaient mineurs, métallos, ouvriers de gigantesques entreprises sidérurgiques. Et ça, c'était des métiers très valorisés en Union soviétique. De façon toute simple, ils avaient des bons salaires, on les envoyait passer des vacances dans des pensionnats d'élite. Et ils avaient surtout de quoi être fiers, en réalité. Là-dessus, du jour au lendemain, je ne romantise absolument pas la période soviétique de ce point de vue-là, mais ce que la plupart des gens ont vécu, y en a évidemment parmi eux énormément qui n'acceptaient pas une partie du fonctionnement soviétique, mais ce que la plupart des gens de cette région ont vécu, c'est plus qu'un déclassement, c'est un crash, et un crash terrible, parce que c'est tout simplement passer de cette opulence à la misère, et passer de cette fierté à une sensation d'être des moins que rien vraiment dur. Et à ça s'ajoute le fait d'avoir perdu un pays. On en revient à ces questions d'identité. Une bonne partie des Ukrainiens ont été très à l'aise avec ce séisme géopolitique de la fin de l'URSS qui leur permettait de retrouver ou de construire un pays. Une partie des gens dans d'autres régions, par exemple en Crimée, qui pouvaient plus spontanément se sentir russes, alors n'étaient pas forcément heureux de ce qui se passait, mais au moins comprenaient où ils étaient. Dans le Donbass, ce sont des gens qui ont encore aujourd'hui une identité très ancrée dans la région, dans cette fierté passée, et qui dit fierté passée et disparue, dit où est-ce qu'ils la cherchent maintenant, leur fierté, leur identité, un peu nulle part. La guerre les a un peu séchés. Donc pourquoi cette région? C'est pas tellement moi qui l'ai choisie. Ça n'est pas un hasard que ce conflit soit arrivé dans cette région, perdue, à la dérive, qui malgré tout a encore l'impression, on entendait souvent sur place des discours sur le thème, on nourrit toute l'Ukraine parce que effectivement le charbon qu'ils produisent, l'acier qu'ils produisent continue à être vendu, ce sont des choses qui valent beaucoup d'argent. Après ils sont aussi dans le même temps très subventionnés par l'État. Donc voilà.
Je voulais revenir sur une partie de personnage parce que Kavadze a le rôle central évidemment. Mais vous arrivez dans la galerie de personnages à brosser un portrait de la société ukrainienne, peut-être en général, assez précis, parce que bon, vous avez le flic qui va enquêter, vous avez ses supérieurs qui viennent de temps en temps sur place, rarement, vous avez un adjoint corrompu, et vous avez surtout Levon Andrassian. Je voulais qu'on s'arrête un tout petit peu sur cette figure-là, parce que c'est lui qui dirige la ville, en fait, sans avoir un rôle politique. Et c'est le cas dans plein d'autres endroits. Comment on arrive à dépendre juste d'un homme d'affaires véreux, qui plus est?
Véreux, oui et non. Juste pour le situer, c'est le directeur de l'usine de coke. Qui est le coke, c'est une sorte de super charbon. On le fabrique, c'est des immenses fours dans lesquels on jette des tas de charbon déjà de bonne qualité, donc du charbon qui coûte assez cher, et en sort le coke qui est ensuite utilisé dans la métallurgie, dans la sidérurgie. Donc son usine est quelque chose. C'est une usine réelle, hein, puisque dans cette ville, c'est un centre névralgique de la ville, et moi j'en ai fait un personnage à part entière, cette usine. Son patron, son directeur, pardon, Levon Andrassian. Alors, ce n'est pas un personnage totalement libre de ses mouvements à 100%, puisqu'il dépend d'un oligarque qui est au-dessus de lui. Et il est véreux, oui et non. C'est-à-dire que c'est des endroits où, quand on a fait du business dans les années 90-2000, le business légal n'existait pas vraiment, honnête, pas beaucoup non plus. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus cadré, mais évidemment qu'il y a des zones d'ombre, on va dire. Qui plus est, il est obligé de s'arranger, et ça c'est évidemment réel, de s'arranger avec les gens d'en face qui sont théoriquement ses ennemis pour faire venir le charbon, puisque l'essentiel du charbon qui est utilisé dans cette usine vient de ces territoires séparatistes. L'acheter est théoriquement interdit, mais évidemment qu'on s'arrange, et ça fait partie aussi des nœuds un peu de l'intrigue. Donc voilà, ensuite, ce personnage, c'était un peu l'envie que j'avais, c'était d'en faire... il a ses forces, il a ses faiblesses, il a ses points lumineux, ses points sombres, et ils sont tous un peu comme ça. Et alors, lui, je disais, Henrik, le personnage principal qui a été le plus inventé, lui, il s'inspire d'un personnage réel, puisque cette usine a bel et bien un directeur. C'est le point qui me fait, j'allais dire, presque honte dans ce livre. J'ai très envie qu'il soit traduit en russe, et il le sera sans doute, mais c'est la chose qui m'embêtera au moment où il sera traduit, c'est que ce monsieur, le vrai directeur, va lire ça, et qu'en réalité, dans la vraie vie, c'est quelqu'un de beaucoup plus lumineux qu'il ne l'est dans le livre. Et effectivement, il tient la ville sur ses épaules. Je le mets un peu dans le livre, mais encore plus dans la réalité. Ça n'est pas que moche, ça peut nous choquer, nous, avec notre vision assez française. C'est très paternaliste, tout simplement. Et à la fois, c'est dans la suite de l'histoire de cette région, où la mine et donc son directeur décident de tout pour vous, l'usine, pareil. Mais cet homme-là, moi, je l'ai vu dans la vraie vie, dès qu'un obus tombe sur une maison, il a son business à faire gérer, mais non, il sort, il prend son 4x4 et il va voir les gens qui se sont pris un obus, voir s'ils ont besoin de quelque chose, leur offrir 3 briques si jamais il faut reboucher un mur. Donc c'est ces systèmes paternalistes qui nous font pas rêver, dans certaines situations, ils sont pas non plus complètement inutiles.
Ça, il est vrai, vous avez raison, qu'on le découvre aussi dans le roman, qu'il aime ça, il aime les habitants, il aime sa ville, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, le mot oligarque, justement, on l'emploie un peu à toutes les sauces, et qu'il a quand même une histoire, et il a une vraie étymologie, et que c'est là qu'ils sont nés, les oligarques, dans ces anciens territoires de l'URSS, dans les années 90, où justement, c'était un peu le Far-Est, Far-West, et que toutes les affaires ne sont pas faites de manière hyper légale, et que du coup, il y a eu beaucoup de malheurs, et la corruption reste quand même un fondement de l'évolution de cette société. Je ne voulais pas le critiquer, mais c'est pas que le point de vue occidental, en fait, je pense. Par exemple, l'adjoint...
Je vous coupe un quart de seconde. Je suis assez conscient, oui, que ce système qui s'est mis en place... qui fait que chaque région ou chaque secteur d'activité est tenu par un baron qui a fait son beurre et son empire dans des conditions assez dégueulasses, parfois violentes, etc., que ça crée quelque chose d'extrêmement malsain. Ce sont des pays, parce que là, on ne parle pas seulement de l'Ukraine, qui sont un peu condamnés à stagner en grande partie pour ça, parce qu'ils sont tenus par des gens cyniques, avides, qui aiment pas seulement l'argent, mais aussi le combat, se bouffer entre eux. Pour eux, l'idée d'arnaquer leur propre peuple, c'est quelque chose de romantique et de valorisé, on va dire. Donc, oui, c'est un système qui est dégueulasse. Dans son sein, on peut trouver des gens qui sont plus nuancés.
La face négative, c'est peut-être plutôt Baluga, l'adjoint de Kavadze. Baluga qui n'hésite pas à servir de ce qu'il y a de plus sale dans toute cette guerre et dans toute cette ville.
Ouais, lui et d'autres personnages illustrent aussi une réalité qui est que, encore plus dans une région où la corruption est déjà importante, la guerre suscite évidemment des trafics de la corruption, sans doute même que ces trafics contribuent à la faire durer. Et là, pour le coup, je l'illustre avec des choses assez mesquines, mais qui existent, pareil, un flic de petit rang ou de milieu de rang, lui, c'est l'adjoint du chef de la police, mais on est dans une petite ville, donc c'est pas... un très haut gradé, et puis ce sont des gens qui parfois sont prêts à tout pour quelques grivenias, comme la monnaie locale.
Et à contrario, il y a un autre, l'ancien adjoint de Kavadze, qui lui a choisi de partir de l'autre côté. Et lui, c'est quelqu'un de plutôt lumineux, mais il n'a pas eu le choix.
Il a eu le choix. Ça, c'est... quand je couvrais ça, alors je la couvre toujours en tant que journaliste, mais pendant des années, je n'avais pas du tout l'idée de ce livre. Je faisais uniquement mon travail de journaliste. Et quand je couvrais le basculement de cette région, donc 2014, quand les séparatistes pro-russes l'emportent, soutenus par la Russie, etc., pour essayer de comprendre dans quel sens ça allait aller, je m'intéressais beaucoup aux élites, puisque ce sont quand même eux qui décident globalement, les élites économiques, les chefs d'entreprise, les flics, les politiques, etc. Alors la plupart attendaient de voir dans quel sens le vent allait souffler, tout simplement pour sauver leur peau, mais aussi chacun... Des tas de motivations pouvaient se mêler dans les choix individuels qu'ont fait les uns et les autres. Certains ont fait des choix idéologiques de dire « oui, je crois à cette idée qui venait de Russie, de grande Russie, d'intégrer cette grande Russie, etc. » Ils étaient en plus d'autant plus prêts à le croire qu'ils avaient l'exemple de la Crimée sous les yeux. Et là-dessus, ils se faisaient des illusions puisque la Russie n'a jamais eu le projet de se coltiner cette région pauvre et maintenant détruite. Il pouvait y avoir ça, il pouvait y avoir des motivations beaucoup plus simples, de se dire si les Russes arrivent, mon salaire va tripler. Il pouvait y avoir des... Parfois, c'est des gens qui simplement obéissent à leur supérieur, même en parlant de chef de la police. Si le chef du chef de la police est un oligarque ou un petit oligarque, il fera ce qu'on lui dit de faire. Donc les gens ont eu le choix, mais dans des cadres contraints, en se berçant parfois d'illusions.
Une autre figure qui est extrêmement importante dans le roman, c'est la figure du soldat. Et pendant son enquête, Kavadze va aller jusque sur la ligne du front et assister à une discussion entre soldats. Vous vous rendez compte d'un échange qui est extrêmement intéressant entre ces soldats qu'on peut voir dans les photos, qu'on peut voir à la télé, qui sont sales, qui sont fatigués, et leur discussion est extrêmement intéressante. Et lui-même, Kavadze, est un peu stupéfait. Est-ce que vous voulez transmettre quelque chose en mettant en scène ces discussions et cette image, ce tableau sur la ligne de front zénith, la partie la plus avancée dans les terres séparatistes ?
Oui, mais après, ce qui est rigolo, c'est que ça fait partie des quelques scènes, il y en a quelques-unes dans le livre, qui sont des quasi copier-coller de choses que j'ai vues. C'est-à-dire cette discussion, je l'ai un tout petit peu allongée, détaillée, mais je l'ai vue et c'est une discussion pour expliquer en deux mots sur, en gros, des soldats dans une tranchée noire, froide, enfin, dans une tranchée, quoi. Ces gens font réellement la guerre au fond de tranchées. Dans une casemate, dans une tranchée, on va dire, c'est quand même un peu plus hospitalier que juste un bout de terre. Et ont une discussion sur le sens de la guerre qu'ils sont en train de vivre. La présence du héros permet de tirer des parallèles avec la guerre en Afghanistan, qui, comme je vous le disais, était une guerre vue comme, y compris par les soviétiques, comme sale, peu glorieuse et peu légitime. Et ils discutent histoire, en quelque sorte. Et ça peut paraître fou, mais c'est une scène parmi d'autres que j'ai vues. Et bizarrement, d'ailleurs, c'est pas les scènes que j'ai l'impression qu'il sonne le plus juste, parce que c'est finalement plus quand je me forçais un peu à m'éloigner de la réalité pour ne pas faire un livre de journalisme, mais pour faire quand même un roman et un polar qui soit qui répondent aux codes et qui donnent du plaisir aussi. C'est quand je me forçais à m'éloigner de cette réalité, de m'éloigner de ce que j'avais vu et vécu, que je trouve, en tout cas, moi, je ressens que ça décolle le plus. Et cette scène-là, donc je l'ai vraiment uniquement retranscrite, mais je voulais transmettre ce que j'ai vu, à savoir des gens qui sont qui peuvent être sales, qui peuvent avoir froid, qui peuvent tenir un fusil et qui pour autant sont capables de se poser des vraies questions, qui pour autant sont capables d'avoir des discussions dignes d'un télo. C'est assez stupéfiant à voir, ouais.
Mais c'est stupéfiant et c'est extrêmement émouvant, parce que je fouille dans mes fiches et c'est pour ça que je faisais référence à un de vos articles parus dans Le Monde. Et il y a Vladimir Vlasenko qui aurait pu se trouver dans cette tranchée, qui dit dans l'article « Je sais ce que c'est la guerre, une médaille, et à côté de ça, du sang, de la mer, de la boue. Mais tout ça me perturbait trop. Les Russes ont pris la Crimée, le Donbass, et ensuite quoi? C'est chez moi que j'allais faire la guerre contre eux. En Afghanistan, j'obéissais aux ordres. Là, j'ai choisi d'obéir à ma conscience. » Et même si on sent peut-être le journaliste de temps en temps, c'est aussi ce qui donne du poids au livre, parce que on sait en vous lisant que vous, enfin, c'est de la fiction, mais c'est la fiction qui est assise sur quelque chose de solide. Et parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même suffisamment grave pour pas qu'on en rajoute. Je vous conseille vivement de vous arrêter justement sur ces quelques pages d'échange entre soldats. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Au même titre que j'en parlais au tout début, l'image de la femme. Vous avez les femmes âgées, comme je vous disais, Antonina qui va de maison en maison pour échanger des nouvelles. Vous avez la femme de Cavazze qui a du mal à avoir peur en permanence, qui est toujours crispée, qui est toujours en attente, qui dit, et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la femme en général ou la femme slave, mais qui dit, je pensais que je pourrais nous porter tous les deux, mais finalement, peut-être que je vais m'écrouler en même temps que lui. Pourquoi vous êtes arrêtée si longuement sur la femme? Elle est très, très importante dans ce livre.
Mais sans doute parce que, là encore, j'en reviens au terrain, la femme et surtout les vieilles femmes sont celles qui nous, quand on va sur le terrain, qu'on va dans ces endroits un peu durs, sont celles qui nous accueillent le plus. Alors ça peut aussi être celles qui sont les premières à répandre des rumeurs totalement absurdes, mais bon, tant pis, on fait l'impasse là-dessus, ou en tout cas, ensuite, on fait notre boulot, mais qui nous accueillent avec le sourire, qui ont des histoires. Là aussi, c'est ce que je disais au début, c'est que ces vieilles femmes, elles portent en elles une quantité d'histoires, et d'histoires avec un grand H, qui est assez phénoménale. Donc, elles sont riches, ce sont des personnages riches, ce sont des personnages attachants. Ça peut être des personnages... Un peu moins attachant parfois. Là, je ne le mets pas dans le livre, mais puisque vous me questionniez au début sur les tout débuts de cette guerre et je parlais de cette période où c'était des combats de rue, où le conflit était civil. J'ai vu un nombre de fois des vieilles femmes désignées de façon hystérique l'ennemi, celui dans la foule qui est le traître, etc., et puis les gros bras suivre. Que bon, je sais qu'il faut être prudent, mais voilà. Là, ce que j'ai quand même vu le plus, ce sont... Et puis, il y a quand même une donnée aussi de base assez simple. C'est des endroits assez démunis dès l'origine. La guerre a fait que les gens qui avaient le plus de capacités, qui étaient les plus jeunes souvent, et ceux qui avaient des familles, mais pas tous, hein, il y a beaucoup de familles qui restent, mais beaucoup de familles sont parties. Donc, il reste plus de vieux que dans une région ordinaire. Et quand on regarde les vieux dans ces coins de l'Europe, eh ben, c'est beaucoup des femmes parce que les hommes meurent plus tôt, tout simplement. Donc tout ça fait que, oui, les femmes sont des personnages importants.
C'est, pour l'anecdote, je suis roumaine et ce sont des situations, guerre mise à part, qui sont assez similaires. J'ai l'impression dans tous ces pays-là où, en effet, les hommes partent avant, où les femmes font un peu image de vigie, que ce soit dans les immeubles, que ce soit dans les villages... Et justement, on arrive à parler identité et identité européenne, parce que finalement, tout ça part de Maïdan et le souhait d'une partie de la population de rejoindre l'Europe et de tourner le dos enfin, 30 ans après la chute du mur et de la chute de l'URSS, tourner enfin le dos à cette partie de leur histoire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible un jour ?
Pour le dire plus clairement, une adhésion à l'Union européenne ?
Oui, ou même laisser derrière la Russie.
Ah.
Plutôt.
L'adhésion de façon purement réaliste, non, pas avant 50 ans. Et tourner le dos... Pour moi, la vraie question, c'est pas tellement tourner le dos à la Russie.
Est-ce que la Russie va...
Non, c'est pas... Si, ça se pose comme ça, du fait de la guerre. C'est-à-dire que maintenant, la question se pose évidemment de façon aussi simple. La Russie n'a pas envie de laisser partir l'Ukraine. Surtout, la Russie a envie que l'Ukraine échoue, parce qu'un succès de cet espoir qui a eu lieu de réformer le pays, ce serait assez menaçant pour le pouvoir russe. Et la guerre est un des instruments utilisés pour déstabiliser ce pays, pour faire en sorte qu'il soit sans cesse sur la brèche. La guerre ou même des négociations. Si jamais ces négociations aboutissaient à, je ne sais pas, que cette région ait des pouvoirs importants, qu'elle envoie des députés à Kiev, ça rendrait ce pays un peu schizophrène et ingouvernable. Ensuite, donc tout ça pour dire la vraie question que, selon moi, devraient se poser les Ukrainiens pour en plus pouvoir faire quelque chose de plus rassembleur, quand bien même la guerre a contribué à cristalliser toutes les positions, à tendre toutes les positions, c'est pas tellement est-ce qu'on est capable de tourner le dos à la Russie, c'est est-ce qu'on est capable de tourner le dos au système, au mode de fonctionnement hérité de l'Union soviétique. et dont la Russie est porteur. La Russie le revendique, donc on le voit, elle revendique y compris les pages les plus sombres de l'Union soviétique, au nom d'une lecture qui ne peut être que glorieuse de l'histoire, en quelque sorte, et de façon même plus directe, ce mode de fonctionnement issu de l'Union soviétique, c'est lui qui est un mode de fonctionnement dans lequel le citoyen... l'Ukraine est une démocratie, donc le citoyen vote, mais le citoyen compte peu, c'est-à-dire qu'il n'obtiendra pas réparation en justice. Pour être entendu, il devra utiliser la corruption. Les élites sont très corrompues, etc. Donc si l'Ukraine veut espérer quelque chose, et y compris peut-être arriver à rattraper ceux de ses habitants qui lui ont tourné le dos, parce qu'une partie de ces gens de cette région ont reçu des bombes ukrainiennes pendant 6 ans, donc l'idée de l'Ukraine, ça leur est quand même un peu lointain, c'est si jamais l'Ukraine arrive à proposer quelque chose de cet ordre-là, construire un État fonctionnel, un État de droit, une justice qui marche. C'est plus ce genre de questions pour moi qui doivent primer.
Une chose qui n'est pas vraiment possible dans les prochaines années.
Ça prend du temps.
Il n'empêche qu'avec avec cette guerre, il y a eu beaucoup de crispations dans les pays autour, dans l'Estonie, dans la Lettonie. Est-ce que vous craignez que du coup les velléités expansionnistes de Poutine puissent continuer ?
Moi, je crains rien. Enfin, je ne sais pas comment le dire parce que j'ai, à la fois, je suis observateur et puis, oui, citoyen quand même.
Est-ce que vous pensez, alors ?
Non, en tout cas, non, je pense qu'expansionniste, ce n'est pas vraiment le mot parce qu'il y a eu la Crimée qui est vraiment un cas, je crois, à part. Et ensuite, oui, il y a une volonté de peser sur, au minimum, les politiques et les orientations de ses voisins. Les Russes, effectivement, insistent beaucoup sur l'idée de souveraineté, sur le fait que d'autres États, à commencer par les États-Unis, ont imposé leur vue à toute une série de pays à travers la planète. Donc le cœur de leur discours géopolitique, auquel ils croient sans doute, mais aussi pour séduire, c'est d'insister sur la souveraineté, sur le fait qu'on ne touche pas au régime en place, etc. Et c'est vrai que le point faible de cette logique, de cet argumentaire, c'est que ça ne s'applique pas vraiment à leurs voisins, à l'ex-URSS, à ce que les Russes appellent l'étranger proche. Qui lui doit ne rester qu'une zone d'influence. Quand il ose se rebeller ou regarder ailleurs, soit il doit être puni, mais en plus c'est pas naturel, ça ne peut être que le résultat d'une manip occidentale. Donc c'est là où la Russie est redoutable en quelque sorte, c'est qu'elle est déterminée à continuer à contrôler, peser sur certains de ces pays. Et ensuite, son rapport à nous, à l'Europe occidentale, je pense que c'est encore autre chose. Mais là, c'est une volonté d'asseoir son influence, une volonté de diviser pour peser plus. Mais ce n'est pas de l'expansionnisme.
On va quand même peut-être se rediriger vers un peu plus de légèreté. Quand vous avez choisi le polar pour parler de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine, c'est parce que vous-même, vous devez être lecteur de polar.
Oui.
Donc je vais vous demander, qu'est-ce que vous aimez dans le polar ?
Oh, c'est toujours difficile, ça, comme question. Non, en plus, je pense que j'ai choisi le polar pour une raison bien pire que ça. Oui, j'aime en lire, mais qui est que c'est un peu intimidant d'écrire un premier livre, un premier roman. Et le polar, non seulement j'aime ça, mais ça offre des cadres assez clairs, finalement. Et moi, d'ailleurs, je fais, vous l'avez dit, quand vous dites les gros traits de l'intrigue, ils sont finalement pas très originaux. On a un flic, on a des meurtres, et le flic doit résoudre les meurtres. Donc c'était, j'ai peut-être manqué un peu d'originalité et d'ambition, mais c'était une façon de me rassurer. Et puis parce que je savais qu'à l'intérieur de ce cadre clair, je pouvais quand même faire passer beaucoup de choses. Mais voilà, c'était avant tout pour ce cadre-là. C'est aussi d'ailleurs de façon toute bête... Je peux vous le dire. J'ai aussi manqué d'originalité dans le choix de la ville, par exemple, puisque quand j'ai décidé d'écrire ce livre, nous venions avec deux collègues de passer une semaine dans cette ville précisément d'Avdiivka, et où on habitait dans l'abri anti-atomique de cette usine dont j'ai parlé. Pendant une semaine, quand on sort, ça fait boum boum un peu autour. Pendant une semaine, on voit des gens totalement désespérés, donc tout ça pèse un peu. Et au moment où on sort de la ville au bout d'une semaine pour rentrer, pour faire la longue route vers Kiev, on est tous un peu épuisés, un peu nerveux. Et là-dessus, sur le bord de la route, passe un type avec une faux sur l'épaule. Et je ne sais plus lequel de nous trois dit « Oulala, il manque plus qu'un psychopathe dans ce foutoir ». Et moi, je dis très sérieusement « je vais vous le faire ». Donc c'est de là que vient l'idée. Donc comme cette longue réponse me permet d'échapper à la question sur qu'est-ce que je lis comme polar.
Après, le crime, vraiment, je peux vous le dire, c'est simplement un prétexte, c'est le meilleur prétexte qui soit pour décrire une société et ses fonctionnements, et cet art et ses choses positives. Donc non, vous n'avez pas manqué d'originalité, c'est que pour avoir un polar, il faut quand même que quelqu'un meure en général, ou disparaisse. Donc ne vous flagellez pas, c'est pas nécessaire. Donc vous n'allez pas nous donner un auteur là, tout de suite, non?
Un auteur de polar que j'aime beaucoup.
Il n'y a personne qui vous a...
Qui m'a servi de... Il y a des tas d'auteurs de polar que j'aime beaucoup. Ken Bruen, Philippe Kerr, dans les Français, Iso. Non, et de gens dont je me suis inspiré plus concrètement, il y en a peut-être deux, mais qui n'ont rien à voir avec le polar. Il y a un auteur ukrainien qui s'appelle Sergei Jadan, à qui j'ai tout simplement volé un procédé littéraire qui me fait 2-3 pages. Et qui me plaisait beaucoup. Je crois que ça se fait, que les fautes avouées sont pardonnées. Et il y a l'immense Svetlana Alexievitch, qui pareil, m'a beaucoup inspiré, et y compris pour parler d'Afghanistan. Parce qu'elle a, parmi les choses extraordinaires qu'elle a faites, il y a un livre très fort sur l'Afghanistan. Et donc, je m'en suis... Il y a notamment un passage où, pareil, je m'en inspire assez clairement.
Et merci encore à tous et à toutes.
Merci. D'accord. Merci.